Jesus, friend of sinners, we have strayed so far away. We cut down people in your name, but the sword was never ours to slay. Jesus, friend of sinners, the truth's become so hard to see. The world is on their way to you, but they're tripping over me. Always looking around and never looking up.
Oh Jesus, friend of sinners. Oui Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes. Toi qui nous as appelé ton ami, toi qui nous as appelé ton grand frère, le premier-né d'entre les morts, nous voulons te célébrer encore en ce jour parce que tu nous permets de nous plonger dans ta parole, les Écritures, pour méditer et pour mettre en application tout ce qui est prescrit. Parce que c'est en cela, tu as dit, que nous connaîtrons le succès. C'est en cela que tu as dit que nous réussirons. Merci Seigneur pour la vie de tout et chacun de nous ici. Merci pour la vie des animateurs. Merci pour la vie des leaders de BMVG. Merci Seigneur pour la vie de nos familles. Sois exalté, sois magnifié. Nous allons parler et partager. Mais c'est toi qui vas nous enseigner, nous diriger. Alors je me fais tout petit pour que tu te prennes toute la place au Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Rayata kambobo shindara baba shindara baba baba. Parayara baba baba baba. Purifie nos Seigneurs, purifie nos cœurs, prépare nos terres, prépare nos cœurs à recevoir la semence fertile de ta parole, pour que ça produise du fruit, pour que ça nous édifie, pour que ça nous amène dans la voie de la destinée, la voie de l'éternité que tu as créée pour nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Shalom, 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 bien-aimés en Christ et chers amis de BMVG, nous souhaitons la bienvenue à notre programme de méditation quotidienne sur les Écritures du jour. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 15 juillet de l'an de grâce 2021 et nous allons essentiellement partager sur le livre de Marc au chapitre 2 pour pouvoir en tirer les clés et les secrets révélés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Pour l'équipe de présentation, nous sommes le frère Orphée des États-Unis, en collaboration avec la sœur Enam du Togo et la sœur Tania des États-Unis. Alléluia. Nous tous sommes soumis sous l'autorité du Dieu Tout-Puissant qui se révèle en chacun de nous par son esprit, qui est notre hôte. Alléluia. Merci, merci, merci. Alors, pour les questions du jour, bien avant ça, je voudrais vraiment nous excuser pour le retard inhabituel de ce jour, des raisons indépendantes de notre volonté, mais nous avons tenu absolument à partager, suivant nos programmes, le chapitre 2 de Marc avec vous. Donc, s'il vous plaît, avec votre indulgence, aidez-nous à nous entraider. Amen, amen, amen. Les deux questions que nous sommes posées pour la réflexion, pour trouver réellement les clés, les secrets du jour sur Marc chapitre 2. La première question, c'est quoi? Que faut-il retenir du miracle de la guérison du paralytique selon ce qui est écrit dans Marc 2, au chapitre 2, du verset 1 à 12? Et puis de là aussi, il faut poser la question de savoir, est-ce que nos maladies, nos malaises et nos paralysies seraient-ils liés au péché? Alors, si c'est cela ou pas, qu'en est-il de nos guérisons et de nos délivrances? Dépendent-elles du pardon de Jésus-Christ? Là, c'est la première question pour réflexion, pour trouver réellement la révélation que Dieu veut me montrer. La deuxième série de questions, c'est Jésus-Christ se fait appeler l'ami des pécheurs. Et lui-même dit qu'il est venu pour les pécheurs. Mais en même temps, il s'est constitué comme l'ennemi des autorités de son temps. Et vous avez vu comment les Juifs, surtout les pharisiens, les autorités de son temps, les pharisiens, les scribes, les docteurs de loi, et même le prêtre de ce temps-là n'aimait pas du tout son affaire. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il voulait révéler dans cette déclaration surprenante qu'il a faite en leur regard, en disant, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades, pardon. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. On retrouve ça dans Marc 2, verset 17. Amen, amen, amen. Nous allons commencer à travailler un peu. Il faut toujours poser les fondations pour essayer de comprendre les Écritures. Alors la question c'est, que faut-il retenir du miracle de la guérison du paralytique? Avec ta permission, je vais essayer de revivre ensemble ce qui s'est passé pendant ce jour-là. La Bible écrit dans Marc 2 à partir du verset 1, quelques jours après, Jésus revint à Capernaüm où on apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonça la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Verset 5 nous dit, Jésus voyant ainsi, donc leur foi dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Verset 8 dit, Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Verset 10 nous dit, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Verset 12. Et à l'instant même, il se leva et prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais vu rien de pareil. Amen. C'était un grand miracle. Et nous pouvons tirer beaucoup de leçons de ce miracle-ci. La première leçon que moi j'ai tirée, c'est que nous tous, d'une manière ou d'une autre, nous sommes malades. Et nous tous, d'une manière ou d'une autre, nous avons besoin de guérison, n'est-ce pas? On parle même de pandémie, de COVID-19, avec tout ce qui se tracasse et qui se passe. Nous tous, nous sommes au courant de ça. Et nous tous, nous avons juste besoin de vrais sauveurs qui viendront nous sauver, pas des soi-disant sauveurs ou bien soi-disant solutions que nous savons qu'ils ne vont pas nous amener loin. Imaginez l'ambiance qui se passait dans la vie de ce paralytique. Les parents n'en pouvaient plus, ils ont fait tout ce qu'ils savaient et pouvaient. Mais ils ont appris qu'il y avait un guérisseur en vue, pas n'importe lequel, le guérisseur des guérisseurs. Et ils ont forcé, en portant le paralytique sur un lit. Il n'y avait pas de la place pour rentrer à la maison, mais ils sont allés trouver une alternative, plan B, en passant par le toit. Cette persévérance dans la persistance, c'est ça qui a touché Dieu. C'est ça qui a touché Jésus. Au point où il a compris que ce monsieur paralysé était paralysé à cause de quelque chose, à cause du péché. C'est ça qui le bloquait, c'est ça qui le rendait paralytique. Il fallait justement aller à la source du mal, aux racines du mal, pour ôter ce qui l'empêchait de retrouver sa mobilité. Donc c'était le péché. Et c'est pour cela qu'il dit, tes péchés te sont pardonnés. C'était son médicament. Deuxième chose que je peux apprendre, c'est que C'est pas tout le monde qui va aimer ce que nous faisons du bien, surtout quand il s'agit d'aider les gens à recouvrir leur pleine santé. Je ne suis pas contre ce que les autorités décident pour nos populations dans cette crise de pandémie, mais je trouve quand même assez inacceptable qu'un pays comme le Madagascar, au début du Covid, qui a fait des recherches, est sorti avec un remède pour dire, voilà, j'ai mon Covid, CVO, comme il l'appelait. Essayez-le. Il a même fait distribuer ça à nos présidents dans les pays africains. Mais que des autorités se lèvent pour balayer ça de la main, soi-disant qu'il faut faire des études encore approfondies. Le monsieur n'a jamais dit que c'était un médicament, il a dit c'est un remède. La différence entre un remède et un médicament, c'est quoi? C'est que le médicament suit tout un processus scientifique, suivi d'écrits et de publications scientifiques. Le remède, c'est des trucs qui sont disponibles. On peut faire une infusion qui est un remède. Moi, je fais souvent des infusions là-bas. Des herbes, par exemple, pour le palud. Je prends de l'artémisia, je fais mon infusion, je bois, etc. Mais quand ça vient des petits États, on étouffe. Mais quand ça vient des grandes puissances, on célèbre. Même si on n'est pas sûr que ça va apporter la solution, on suit. Les amis, cette leçon, nous devons l'apprendre, c'est que nous ne devons pas nous laisser impressionner. Quand nous pensons que c'est la solution pour nous, adoptons cette solution. Mais respectons quand même ce qui est établi. Mais ne nous laissons pas asservir parce que ça vient d'en haut ou ça vient de quelqu'un. Donc c'est très important que nous comprenions que nous devons d'avoir confiance en nous-mêmes en tant qu'Africains. Et nous devons d'aller faire nos recherches pour apporter des solutions pour nos santé. Qu'en déplaisent les uns, c'est notre appel. Chaque peuple se doit de trouver des solutions. C'est pour ça que Dieu a placé chaque peuple sur un territoire. Et sur ce territoire, Dieu a déjà donné des solutions, y compris les herbes, les plantes, pour pouvoir se traiter. Jésus a utilisé sa façon de traiter le malade, le paralytique ici. Mais les autorités sont en les scribes, les pharisiens ont objecté. Comme quoi, ils n'avaient pas le droit de dire ce qu'il fallait pour que ce monsieur soit guéri. Mais Jésus est allé plus loin pour leur dire, troisième leçon, je prends. De ça, c'est pour leur dire, afin que vous sachiez que l'autorité m'a été donnée sur la terre. Maintenant, je vais même faire quelque chose qui va vous dépasser. Je vais demander à ce monsieur, qui je sais déjà guéri par la foi, de se lever, de prendre son lit, puis de rentrer. Et c'est ce qui est arrivé. Il faut toujours avoir l'audacité dans la sagesse. Nous, les chrétiens, ou bien ceux qui sont à la suite de Christ comme disciples, ou bien comme croyants, engagés, déterminés, croyants, pratiquants. Je ne sais pas pourquoi nous avons si peur de faire des espoirs. Parce que Jésus nous l'a dit, toi et moi nous ferons des espoirs et c'est lui qui écrasera nos ennemis. Pourquoi nous avons peur d'avoir de l'audace et de faire des démonstrations de puissance? Pourtant, l'autorité t'a été donnée, t'a été donnée. Pourquoi nous sommes si timides? Nous sommes si influencés par les choses de ce monde-ci. Bien-aimés, il est temps qu'on se réveille et il est temps qu'on comprenne que si Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire et l'assurance de la victoire. Alors, de là à dire, si nos maladies, nos malaises, nos paralysies seraient-ils liés à des péchés, c'est aussi un point de réflexion qu'il faut comprendre. La Bible dit clairement que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Très simplement, si aujourd'hui tu enfreins la loi de ton pays, et qu'on t'attrape, qu'est-ce qu'on va te faire? On va te mettre en prison, ou bien te faire juger pour te mettre en prison après. Tu passes par la justice. Tout ce qui est infraction à une règle, à une loi, doit passer par une correction, à une justice. C'est ça qui est le péché. Maintenant, la maladie, nous savons que c'est souvent quelque chose qui vient nous empêcher d'être nous-mêmes, qui nous crée des situations qui font que quelque chose est diminué en nous. Quelqu'un qui attrape par exemple le Covid va passer du temps à l'hôpital, c'est clair. Quelqu'un qui est paralysé par exemple doit se faire aider par d'autres personnes, bien va utiliser des moyens pour se déplacer. Ça aussi c'est vrai. Est-ce que c'est le péché qui crée ces choses-là? Ça peut être oui, comme ça peut être non. Personne ne le sait. Ce qui est sûr, c'est que certaines maladies sont directement liées au péché. Par exemple, si tu t'adonnes à une perversion sexuelle et que tu attrapes les maladies sexuellement, transmissible, ça, toi-même, tu comprendras que c'est toi-même qui l'as cherché pour trouver. Mais si tu es né paralytique, alors que tu n'as même pas fait de péché, on ne peut pas dire que c'est lié directement à un péché que tu n'as pas encore fait, même si ta nature est pécheresse. Donc, ça dépend, ça dépend, ça dépend. Mais ce qui est sûr, c'est que Jésus, quand lui vient, il va toujours à la racine de ce qui rend l'homme vulnérable, c'est le péché. Il ôte le péché et il nous donne même la puissance de pouvoir retrouver pleinement l'usage de notre corps. Je ne vais pas terminer cette partie sans parler un peu de ce que nous vivons aujourd'hui comme pandémie dans le monde. Que dit la Bible de la guérison? Et aussi de nous permettre de tirer une conclusion importante qui est quelle conduite à tenir, nous qui sommes malades, bien nos parents qui sont malades, pour que le même miracle qu'on a vu ici, vécu ici en direct, soit aussi vu et vécu aussi dans nos familles, dans notre entourage. Comprenons un peu ce que dit la Bible sur la guérison. D'après mes recherches, vous verrez dans Isaïe 53, verset 5, et dans 1 Pierre 2, verset 4, que ce sont des versets clés qui portent sur la guérison. Et c'est souvent mal interprété ou mal appliqué ou mal expliqué. Et c'est ce qui est écrit, le voici. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le terme donc est traduit par guéri peut désigner donc la guérison physique ou spirituelle. Mais le contexte d'Ésaïe 53, comme celui de 1 Pierre 2, montre clairement qu'on parle de guérison spirituelle, de guérison intérieure, pas de guérison physique. Récoute encore une fois, dit lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que libérés du péché, nous vivons pour la justice, c'est par ses meurtrissures que vous avez été guéris. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Bien-aimés, ce verset parle clairement du péché et de la justice, pas de maladie. Donc, être guéri dans ces deux versets fait référence au pardon et au salut par la guérison physique. Les gens confondent souvent ces choses-là. La Bible ne fait pas le lien entre la guérison physique et spirituelle. Non, même si aujourd'hui, ici, dans ce contexte, on a comme l'impression que c'est ce qui s'est passé. Certaines personnes sont guéries physiquement au moment où elles mettent leur foi en Christ ou bien quand elles vont à des campagnes d'évangélisation. Mais ce n'est pas toujours le cas, hein, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut une dose de foi, il faut une dose de grâce. Parfois, c'est la volonté de Dieu de guérir instantanément. D'autres fois, il n'y a pas de guérison. Mais comment tu vas faire, mon frère, ma sœur? Bien-aimé, l'apôtre Jean nous donne la meilleure perspective en disant ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et nous savons qu'il nous écoute. Pardon. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit la demande, nous savons que nous possédons déjà ce que nous avons demandé. Dans 1 Jean 5, versets 14 à 15. Bien-aimé, Dieu fait encore des miracles. Et il guérit toujours. La maladie, la souffrance, la mort sont encore des réalités humaines dans ce monde. On ne peut pas les effacer, mais on peut les surmonter. Et je dis, à moins que le Seigneur ne revienne entre-temps, tous ceux qui sont en vie encore aujourd'hui mourront. Moi-même, je suis là, en train de vous parler, un jour viendra, je vais rendre le souffle au propriétaire. Mon corps retournera à la poussière et mon âme sera là pour l'éternité. Ayant reçu Christ, je sais que je vais passer Dieu sur le monde dans ma relation directement avec Dieu pour l'éternité. Il ne faut aucune illusion là-dessus. On ne peut pas éviter cela. C'est une transition. Tu vois, nous passerons tous par là. Nous passerons tous par là. Maintenant, nous devons aussi savoir que nous allons passer par ça à cause d'un problème physique. Soit une maladie ou bien une blessure, ça peut être une raison pour le décès. Ou bien on peut partir comme ça tranquillement. Mais ne confondons pas une guérison spirituelle à une guérison physique. quand toi-même ou bien ceux qui ont déjà expérimenté la guérison physique, nous tous on sait que au moins un point nous a été ôté, nous devons toujours rendre grâce à Dieu qui nous permet justement de savoir que le corps qui nous revêt là, c'est un temple temporaire. Mais quand nous allons partir, comme l'a décrit dans Apocalypse 21, à la rencontre de Dieu, quand nous aurons fini notre séjour ici-bas, Dieu va nous revêtir d'un autre qu'on appelle le corps éternel. Et ça, là, il n'y a pas de maladie qui va attraper ça. Il n'y a pas d'infirmité qui va toucher ça. Donc, nous devons garder l'espoir que la maladie n'est pas une fin en soi, la paralysie n'est pas une fin en soi, tôt ou tard, ces choses-là doivent partir. Tu vois. Mais notre vie doit être exempte, sinon on doit surmonter toujours le péché pour que notre corps ne soit pas ouvert à des conséquences négatives des actes que nous aurons posés, qui nous auront attirés, soit le jugement de Dieu ou soit les infections de ce monde-ci. Bien-aimé en Christ, je voudrais aussi rappeler à certaines personnes par rapport à la pandémie qui se passe aujourd'hui pour nous éclaircir un peu. D'après les recherches que j'ai faites aussi, c'est que diverses maladies pandémiques, pandémique ça veut dire que ça attrape la majorité de personnes. Endémique, ça veut dire que c'est récurrent, ça vient de temps en temps, la différence là. Donc certaines maladies pandémiques qui viennent comme ça comme, comme un phénomène qui tue beaucoup de gens. Tels que Ebola qu'on a eu en Afrique, tels que le coronavirus qu'on a maintenant, ont incité beaucoup de gens à se demander pourquoi Dieu autorise ce genre de choses ou même permet que cela arrive, provoque cela parfois. Les maladies pandémiques, et si les maladies sont un signe de la fin des temps, les gens se posent aussi cette question. La Bible en particulier, l'Ancien Testament, décrit de nombreuses occasions où Dieu a amené des fléaux terribles sur des personnes. Dans son jugement, de même que des maladies sur même son peuple parfois. Dans Exode 1, verset 14, nous lisons ceci que, afin que tu vois ma puissance, Dieu a utilisé des fléaux, par exemple sur l'Égypte aussi, pour forcer le Pharaon à libérer les enfants d'Israël de la servitude, tout en épargnant son peuple d'en être affecté, d'en être victime. Vous verrez ça dans Exode 12, verset 13. Indiquant ainsi son contrôle souverain sur toute forme de maladie ou autre affliction ou autre paralysie. Dieu également a averti son peuple des conséquences de la désobéissance. Nous en avons déjà parlé, y compris les fléaux qui tombent sur les gens dans Lévitique, verset 1, 21 et 25, vous trouverez ces éléments-là. À deux reprises, Dieu a détruit près de 14 700 personnes et 24 000 personnes pour divers actes de désobéissance. Vous trouvez ça dans Nombre 16, verset 49 et 20, Nombre 25, verset 9. Bien-aimé, après avoir donné la loi des 10 commandements, Dieu a ordonné au peuple de lui obéir ou de souffrir de nombreux maux. Et quand vous prenez le livre de Deutéronome, par exemple, au chapitre 28, il y a une partie, les 14 premiers, qui sont pour la bénédiction, et le reste, à partir de verset 15 qui sont pour la malédiction, y compris les maladies dans les malédictions. Voyez. Et donc, nous parlons des mots comme Ebola, j'en ai déjà parlé. L'Éternel disait donc dans le livre de Deutéronome 28, verset 22, c'est-à-dire que l'Éternel te frappera de langueur, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Ce sont quelques exemples de nombreux fléaux qui surviennent et qui sont permis par Dieu, de même que ces maladies causées par Dieu. Bien aimé, il est souvent difficile d'imaginer qu'un Dieu qui nous aime tant et miséricordieux manifeste tant de colère et de colère envers son propre peuple à cause de sa désobéissance. Mais les punitions de Dieu ont toujours pour objectif de nous amener au repentir et à la restauration. Dans le livre de 2 Chroniques 7, versets 13 à 14, Dieu dit à Salomon, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Bien, vous voyez donc ici, Dieu utilise le désastre pour attirer son peuple de nouveau vers lui, pour provoquer le repentir dans notre cœur, dans le cœur du pécheur, et le désir de revenir à lui, parce que c'est lui seul qui a l'ultime solution à nos défaillances, et l'ultime solution à nos maladies, et à nos paralysies, et à nos malaises. Nous devons retourner à ce Père, pour que ce Père vraiment nous guérisse totalement. Dans le Nouveau Testament, par exemple, Jésus a guéri toute maladie et toute infirmité. Nous voyons, par exemple, une infirmité, un paralysé qui a été guéri. Ainsi que Jésus aussi a essayé de dégager tous les fléaux dans les régions qu'il a visitées. Quand il allait quelque part, il devenait le ministre de la santé de ce coin-là. Vous verrez ça dans Matthieu 9, 35, qu'on a déjà vu. Et dans Matthieu 10, verset 1. Vous verrez ça aussi dans Marc 3, 10, où Jésus a toujours manifesté son autorité de guérir quand il va quelque part. Tout comme Dieu aussi a choisi d'utiliser des fléaux et la maladie pour aussi montrer sa puissance aux Israélites. Jésus aussi a guéri, a montré cette puissance en guérissant, comme l'affiche publiquement, pour afficher publiquement donc sa puissance et pour confirmer qu'il était vraiment le Fils de Dieu dont il parlait. Tu vois, il a donné la même puissance de guérir à ses apôtres dans un premier temps, puis à ses disciples, pour confirmer aussi leur ministère pour dire qu'il est avec eux. Vous verrez ça dans Luc 9, à partir du verset 1, et même dans Luc 10, vous allez voir comment Jésus a procédé pour aller donc guérir des maladies, en donnant ce pouvoir à ceux qui étaient des collaborateurs. Dieu permet toujours la maladie pour ses propres fins. Mais parfois la maladie, même les pandémies mondiales, sont simplement le résultat de la vie dans un monde déchu. Vous vous rappelez ce qui s'est passé avant que la pandémie ne se déclenche? Les histoires de PD qu'on entendait ici et là, d'homosexuels, des lois qui étaient légalisées. Arrivé au moment, on était fatigué. Même des enfants qui devaient apprendre les cours de vie sexuelle à leur très bas âge à l'école, on était fatigué. Et puis, voilà, COVID-19 est venu frapper. Et puis, toutes ces choses ont été abandonnées pour l'instant. Pour l'instant, parce que ça peut revenir encore. Mais Dieu a peut-être permis cette situation pour que les gens arrêtent de nous emmener dans l'abomination, n'est-ce pas? Bien-aimé, il n'y a aucun moyen de déterminer si la pandémie a une cause spirituelle spécifique, mais nous savons que Dieu est toujours au contrôle et il a un contrôle souverain sur toutes choses, ce que nous rappelle Romains 11, verset 36. Et que Dieu fait travailler toutes choses, fait concourir toutes choses pour notre bien, nous qui l'aimons et qui avons dit oui à son appel, comme le rappelle Romains 8, verset 28. Je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus, je veux seulement que tu retiennes, que nous retenons, que ce miracle de paralysie guérit, parce que Jésus a pardonné le péché aux paralytiques, et parce qu'il a été challengé par les autorités, il est allé loin même pour redonner la pleine mobilité à ce paralytique, démontre encore que Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui ose se lever contre nous? Même les autorités, même les puissances des ténèbres ne peuvent rien contre nous. Et ça doit être la bonne nouvelle pour nous. Sans transition, nous passons à la deuxième série de questions, à savoir, Jésus-Christ, ami des pécheurs, ennemi des autorités juives de son temps. Que voulait-il leur révéler quand il les a déclarés dans Marc 2, verset 17? Que ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais ce sont des malades qui ont besoin de lui, qui n'est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Il y a une chanson que j'avais jouée au début pour dire que Jésus était l'ami des pécheurs. Et c'est véritablement ça. Vous savez, quand Dieu a créé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il était très ami avec eux. La Bible dit que chaque fois, il descendait pour causer avec les deux. Mais quand la désobéissance est arrivée, quand le péché est arrivé, Dieu était obligé de se séparer physiquement et spirituellement d'Adam et de Ève, quitte à même les chasser hors de sa présence. Voyez, mais Dieu n'a jamais cessé d'aimer l'homme qui est sa plus belle créature, il a toujours cherché à venir vers lui. Il sait que toi et moi, nous sommes faillibles. Il sait que toi et moi, nous sommes fragiles. Sauf que toi et moi, le péché est toujours là dans notre corps. C'est pour ça qu'il a pris lui-même la responsabilité de venir sauver toi et moi de ce péché pour que nous puissions être libérés et que nous ayons maintenant la liberté de choisir si nous devons lui obéir ou bien lui désobéir. Le désobéir. Lui désobéir, j'allais dire, un moment. D'après quelques recherches, je vais essayer d'approfondir cette réflexion sur pourquoi dit-on que Jésus était l'ami des pécheurs. Le fait que Jésus soit l'ami des pécheurs montre qu'il veut être notre ami. Parce que moi, je suis le premier, peut-être le premier pécheur parmi nous tous. Et je voudrais avoir ce sauveur-là qui va me sortir de cette situation de péché. Tu vois. Et donc, Jésus attend que nous nous ouvrions à lui, que nous venons vers lui. Parce que si tu as reconnu que Jésus est Seigneur et Sauveur, pourquoi tu vas encore aller trimballer derrière les soi-disant hommes de Dieu, femmes de Dieu, qui en fait, quand tu vois un peu leur vie, ils sont aussi pécheurs que toi d'une part, mais parfois même utilisent leur poste pour pouvoir servir les gens et se remplir les poches. Non, il faut aller directement à la source, il faut aller au Père, il faut aller au Père. Ouais. L'amour de Dieu pour nous dépasse tout ce que nous pouvons imaginer, et tu le sais bien. Son incarnation, le fait qu'il a quitté le ciel pour naître comme un enfant humain, sans défense, afin de grandir comme toi, mais aussi tu as grandi au milieu de nous, et de faire l'expérience de la vie quotidienne que toi et moi nous faisons chaque jour, nous offre un aperçu de la profondeur de son amour. Venir se mettre à notre niveau. Plus encore, quand on ajoute sa mort sacrificielle sur la croix, tu vois comment Dieu, manifesté dans la chair de Jésus, t'a aimé, m'a aimé. C'est pour ça que je ne peux pas choisir quelqu'un d'autre que lui. Toi aussi non plus d'ailleurs. Si tu ne l'as pas encore fait, c'est encore une occasion pour toi aujourd'hui. Bien-aimé, pour devenir l'ami des pécheurs, Jésus a dû venir dans ce monde déchu en laissant son trône derrière, en laissant son privilège derrière et en venant se revêtir de tout ce que nous avons comme condition défavorable, dépravée ici. Il disait, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 3. Mais malgré notre péché, Jésus veut avoir une relation avec toi et moi. C'est profond ce que je vous dis. L'expression « ami des pécheurs » a été tirée de plusieurs passages parallèles des évangiles. Par exemple, à quoi donc comparerai-je les hommes de cette génération? À qui ressemblent-ils? Ils ressemblent à des enfants assis sur la place publique qui se parlent les uns aux autres et disent « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné des chants funèbres et vous n'avez pas pleuré. En effet, Jean-Baptiste est venu, il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin et vous dites « Il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit et vous dites « C'est un glouton et un buveur, ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. » Nous voyons ces références dans Luc 7, versets 31 à 34, et puis aussi dans le bon vu dans Matthieu 11, versets 16 à 19. Dans ces passages, bien-aimés, Jésus dénonce l'immaturité de ceux qui se considéraient eux-mêmes comme des justes et des spirituels, et en se fondant sur les applications rigoureuses des rituels de la loi et sur leur apparence extérieure, de dire « Ah, moi je suis autorité, moi je suis scribe, moi je suis pharisien, moi je suis docteur de la loi, etc. » Plutôt que d'avoir une juste compréhension du cœur de Dieu et une relation avec lui. C'est pour ça qu'ils n'ont même pas compris que Jésus était Dieu. Ils attendaient un Messie, ils n'ont jamais compris que ce Messie s'était rapproché dans une humilité incroyable. Ces personnes appelaient Jésus l'ami des pécheurs et le critiquaient parce qu'il passait du temps avec les exclus, ceux que la société rejetait et minimisait et martyrisait parfois. Les personnes l'appelaient comme ça. La parabole de la brebis perdue montre que à quel point les perdus et les vulnérables se sont éloignés de là où ils étaient en sécurité. Mais que ces personnes sont devenues très importantes pour Dieu, au point qu'il les cherche jusqu'à les trouver et les ramener. Nous verrons dans Luc 14, verset 1 à 4, ceci est écrit. Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchèrent de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens, les spécialistes de la loi, murmuraient, disant, cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. Alors, il leur dit ces paraboles. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il perde une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à la retrouver? Comment Dieu est en train de te chercher, toi qui es perdu? Il faut revenir à lui. Jésus a clairement dit qu'il est venu pour sauver ce qui était perdu. Dans Luc 19, verset 10, il était prêt à s'associer même à ce qui n'était pas assez bon pour les pharisiens. Tout ce qui comptait pour Jésus était que ces gens-là soient prêts à l'écouter pour qu'il puisse leur exprimer l'amour de Dieu, puisse leur rappeler l'amour de Dieu, soit en faisant quelque chose de bonheur pour eux. Ceux qui étaient malades étaient guéris. Ceux qui étaient possédés étaient délivrés. Ceux qui avaient faim étaient nourris. Ceux qui étaient ignorants étaient enseignés. Bien-aimé, Jésus a dit clairement qu'il est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Encore une fois, va le voir dans Luc 19, verset 10. Donc, il est prêt à s'associer, même avec ce qui n'était pas assez bon pour les pharisiens. Tu vois, Dieu est prêt à te prouver son amour. Matthieu 9, versets 10 à 13, qu'on a déjà étudié, parle d'une autre occasion à laquelle Jésus a répondu donc aux responsables religieux juifs qui les critiquaient pour ses relations. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Donc, appeler ces gens à changer d'attitude. En Luc 4 à 18, Jésus cite la référence d'Ésaïe 61, 1 à 2, en disant, l'Esprit du Seigneur, de l'Éternel, est sur moi, parce que l'Éternel m'a oint ou bien m'a consacré par onction pour annoncer les bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés de la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour déclarer une année de grâce de l'Éternel. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, aux prisonniers, aux aveugles, aux opprimés, il fallait bien naître, qu'ils soient en contact avec eux. Bien-aimé, Jésus ne cautionnait pas le péché, ça il faut être très clair là-dessus. Il ne participait pas au comportement des destructeurs, des impies, encore moins des autorités abusives de son temps. Mais en étant l'ami des pécheurs, il leur montrait que la bonté de Dieu nous pousse à changer d'attitude. Romains 2, verset 4. Jésus, qui a vécu une vie parfaite et sans péché, avait sur la terre le pouvoir de pardonner le péché. Nous l'avons vu dans Marc 2. De même, vous allez aussi dans Luc 5, verset 4, 24, il a aussi répété cela. Pour cela, nos cœurs et nos vies doivent et peuvent être transformés si nous laissons cet amour de Dieu là nous toucher. Moi, je le dis souvent que c'est l'amour de Dieu qui m'a amené à la conversion. Dieu a passé par des personnes simples, pendant des périodes difficiles de ma vie, à venir me montrer ce qu'est réellement l'amour, désintéressé, à m'aider, à m'aimer, à me conseiller, à me soutenir, à me soulager. Et c'est des choses qui m'ont touché profondément parce qu'en ce moment, c'est de ça que j'avais besoin. Et c'est ça qui m'a fait comprendre que le pécheur que j'étais, Dieu m'aimait jusqu'à m'envoyer des gens. Tu comprends? Dieu t'aime, Dieu nous aime. C'est très important de noter ce temps-là. Jésus, notre ami, passe et passait tout le temps avec ceux qui étaient nommés les pécheurs, qui étaient rejetés par les autorités d'alors. Non pas pour participer à leur péché, mais pour leur annoncer la bonne nouvelle du pardon. Et pour montrer que Dieu les aime tels qu'ils sont, pour qu'ils changent, pour devenir ce que Dieu veut qu'ils soient. Beaucoup de pécheurs ont été transformés pendant le ministère des trois endémies de Jésus, rien que par sa parole. Le cas de Zachée que nous voyons dans Luc 19, verset 1 à 10, on aura le temps de le voir. Voilà. Et le cas de beaucoup de personnes que nous avons déjà vues dans Matthieu, par exemple. Bien-aimés, les ennemis de Jésus, pour terminer, l'appelaient l'ami des pécheurs comme une insulte. Mais à travers cette insulte, Jésus même se démontrait l'ami des pécheurs pour que sa gloire et sa puissance éternelle soient connues de tous. Jésus a tenu ferme et est devenu donc un ami plus rattaché qu'un frère à celui qui avait besoin
du salut, comme toi et moi. Dans Proverbe 18, verset 24, nous voyons ça. Je termine tout simplement un peu long, mais pour expliquer que l'ami, c'est celui qui est là pour toi dans les moments difficiles. Et surtout dans les moments dans lesquels le péché nous plonge dans des jugements et nous expose à des sanctions. C'est là où Jésus intervient pour nous sauver. As-tu reçu cet avocat aujourd'hui? Si tu ne l'as pas fait, fais-le. Si tu l'as déjà fait, continue de développer cette relation avec lui. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Seigneur, Saint-Esprit, merci pour ce temps. Nous te confions la suite pour que ta semence puisse tomber dans les terres fertiles de nos cœurs, puisse commencer à germer et porter beaucoup de fruits. Oui, tu es notre ami. Bien que pécheur, tu nous aimes parce que cet amour que tu nous donnes nous transforme. Merci, merci, merci. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen.